VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, il est 21h30 à Harare et à Lubumbashi. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. La situation est toujours confuse au Zimbabwe. L'armée se défend d'avoir commis un coup d'État, mais le président Robert Mugabe est en résidence surveillée.
Les gens sont calmes, ils ont suivi le mot d'ordre de l'armée. Ce matin, quand j'ai circulé en ville, j'ai vu les chars au niveau de la présidence et il n'y avait pas de circulation.
Quel est l'avenir pour le Zimbabwe? Nous poserons la question. Nous reviendrons également sur la situation économique de ce pays qui avait pourtant un potentiel énorme à son indépendance. Le reste de l'actualité sur le continent, arrestation d'une quarantaine de manifestants à Lubumbashi en RDC suite à des manifestations anti-Kabila. Et en Angola, Isabel dos Santos, fille de l'ancien président, a été limogée de la présidence de la Compagnie pétrolière nationale. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, ce coup de théâtre au Zimbabwe, l'armée a placé aujourd'hui le président Robert Mugabe en résidence surveillée et a pris le contrôle de la capitale Harare lors d'une opération visant, selon elle, les criminels, je la cite, qui entourent le plus vieux dirigeant en exercice du monde. Plus de détails avec Salwa Jaafari.
Nous ne ciblons que le criminel qui commet ces crimes et qui cause des souffrances sociales et économiques dans le pays afin de le traduire en justice. Aussitôt que nous aurons accompli notre mission, nous nous attendons à ce que la situation revienne à la normale.
Un message télévisé du général Subisiso Moyo qui se veut rassurant, mais les Zimbabwéens et la communauté internationale n'en sont pas moins inquiets. Qui détient les rênes du pouvoir? Tout le monde se pose la question aujourd'hui. L'entrée en scène de l'armée, une première dans le pays, intervient sur fond de bataille pour la succession de Robert Mugabe. Le chef de l'armée est entré en conflit ouvert avec le président après le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, longtemps présenté comme le dauphin de Mugabe et proche des militaires. Mnangagwa a été contraint à l'exil après un bras de fer avec la première dame, Grace Mugabe, 52 ans, qui ne cache pas son ambition de succéder à son époux. Ce matin, des soldats et des véhicules blindés barraient l'accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir et à la Cour suprême. Les bureaux où le chef d'État réunit ses ministres étaient également encerclés.
Quelle est l'atmosphère à Harare? Eddy Sango a joint un habitant qui a tenu à garder l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Les gens sont calmes, ils ont suivi le mot d'ordre de l'armée. Ce matin, quand j'ai circulé en ville, j'ai vu les chars au niveau de la présidence et il n'y avait pas de circulation. À ce niveau-là, c'était bloqué, même le Parlement était bloqué et la Cour suprême. Il n'y a pas de patrouille militaire, c'est seulement les associations des anciens combattants qui ont fait une déclaration. Ils ont demandé à ce que le président soit limogé du gouvernement et du parti, mettre sur pied des enquêtes vis-à-vis de toutes les actions qu'il a posées, lui et sa femme.
Témoignage d'un habitant de Harare qui a tenu à garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Au nombre des réactions, le président de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, qui a dénoncé ce qui apparaît comme un coup d'État, sommant les militaires de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est déclaré hostile à tout changement de régime inconstitutionnel et la première ministre britannique Theresa May a appelé à éviter la violence. Quels sont les principaux protagonistes de la crise zimbabwéenne? Faisons le point avec Jacques Aristide.
Tout commence par Robert Mugabe lui-même, toujours admiré par de nombreux Africains comme un héros de la lutte anticoloniale. Le dirigeant de 93 ans est considéré comme un despote par les Occidentaux qui estiment que sa gestion désastreuse de l'économie et son recours à la violence pour se maintenir au pouvoir a ruiné l'un des États les plus prometteurs du continent africain. Il a déclenché une crise politique le 6 novembre dernier en limogeant son vice-président Emmerson Mnangagwa pour déloyauté. Surnommé le crocodile, ancien ministre de la Défense, Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a également dirigé les services secrets du Zimbabwe. Les généraux pensent que la décision de l'écarter du pouvoir devait permettre de dégager la voie pour Grace Mugabe, l'épouse de 52 ans du président. Surnommée Gucci Grace, elle est connue pour ses dépenses et dernièrement pour ses propos virulents contre d'anciens compagnons de lutte de Mugabe pendant la guerre d'indépendance, d'où l'autre surnom de disgrâce que la rue lui a donné. La montée en puissance de Grace Mugabe n'est pas au goût du chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, qui a déjà averti que l'armée n'hésiterait pas à intervenir contre la purge au sein du parti au pouvoir. Du côté de l'opposition, le MDC de Morgan Tsvangirai n'est pour l'heure pas associé au changement de pouvoir qui s'opère. Le MDC s'est prononcé contre une prise de pouvoir par les militaires.
Avec ces militaires qui semblent avoir pris les choses en main, quel est l'avenir politique immédiat au Zimbabwe? Quel est le sort de Robert Mugabe et de son épouse Grace? Le professeur André Thomashausen, basé à Pretoria, tente d'y répondre.
La seule chose qui reste à décider, c'est que si le vice-président qui devrait continuer à assurer la gouvernance au Zimbabwe sera le dernier vice-président constitutionnel de l'ancien ministre de la Sécurité, M. Mnangagwa, ou bien si ce sera le nouveau vice-président Boko.
Donc pour vous, les militaires ne vont pas rester au pouvoir, ils vont vite rendre le pouvoir à quelqu'un d'autre, probablement à Mnangagwa.
C'est ça, et c'est le cabinet, le conseil de ministres qui continuera. M. Mnangagwa fera peut-être quelques corrections, quelques alternations, et c'est bien probable qu'il essayera d'organiser de nouvelles élections.
Et selon vous, quel sera le sort de Grace Mugabe?
Il paraît que son mari a fait des diligences déjà il y a 10 jours pour qu'elle puisse rentrer en Afrique du Sud. Elle est d'origine de l'Afrique du Sud, et si je ne me trompe pas, elle a encore la nationalité de l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud ne pourra pas refuser de l'accueillir. Il paraît qu'une bonne partie de ses biens ont déjà été transférés en Afrique du Sud.
C'est le professeur André Thomashausen, joint par Abdourahmane Dia. Le reste de l'actualité du continent. En République démocratique du Congo, une quarantaine de manifestants ont été arrêtés selon l'UCHA, le mouvement citoyen lutte pour le changement, lors de manifestations contre le calendrier électoral. De Lubumbashi, la correspondance de Narval Mabila.
Lubumbashi a connu plusieurs points chauds sporadiques de manifestations pour demander les départs de Joseph Kabila et la révision du calendrier électoral, à savoir Kisanga Péage, Jekamine Kabolela, Beler Kaleja, Chaussette Kasengale Bourgeon, Marché Moïse Tombi, Texaco, Marché de la Kenya, où un minibus Toyota Yas a été incendié par des personnes non nettement identifiées et paralysé toutes les activités du marché. La même situation s'est produite au quartier Tabakongo Exaco, où une voiture Starlet a été incendiée, où le chauffeur en est sorti avec des brûlures. La police patrouille toute la ville sans coup de feu. Elle disperse la population pour éteindre l'incendie et le feu. À ces endroits, les activités ont été paralysées. Lubumbashi, ça a été une psychose. Narval Mabila pour VO Afrique.
En Centrafrique, le groupe armé Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, le FPRC, à la tête d'une coalition de groupes armés participant aux violences qui meurtrissent le pays depuis 2013, a déclaré suspendre sa participation au programme DDR, c'est-à-dire de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce matin à l'unanimité un prolongement d'un an de la MINUSCA en Centrafrique. En Angola, la PDG de la Compagnie pétrolière nationale, Isabel dos Santos, fille de l'ex-chef de l'État, José Eduardo dos Santos, et symbole du népotisme reproché à son régime, a été limogée par le nouveau président angolais, João Lourenço. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Au Kenya, la Cour suprême a commencé à examiner 2 recours visant à obtenir l'annulation de l'élection présidentielle du 26 octobre. Les 6 juges ont jusqu'à lundi pour annoncer leur décision. 11 personnes ont été tuées en Tanzanie dans l'accident d'avion d'une compagnie spécialisée dans les safaris. L'appareil s'est écrasé à proximité du cratère du volcan Empakai dans le nord du pays. Et puis au Soudan, des dizaines de journalistes ont manifesté aujourd'hui à Khartoum contre un projet de loi qui vise à limiter encore un peu plus la liberté de la presse.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, les pays de l'Union européenne ont promis environ 34 400 places pour accueillir des réfugiés directement des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, mais notamment de la Libye et du Niger. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la Commission européenne au lendemain de vives critiques de l'ONU. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'il allait s'entretenir pour la première fois avec les deux dirigeants des républiques séparatistes pro-russes autoproclamées de l'Est de l'Ukraine pour évoquer avec eux l'échange de prisonniers de guerre. Et puis en Iran, les autorités intensifient leurs efforts pour venir en aide dans les campagnes aux rescapés du séisme qui a frappé dimanche l'ouest de l'Iran et privé de foyers des dizaines de milliers d'habitants. Selon les derniers décomptes officiels, le tremblement de terre a fait 432 morts en Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
La bière artisanale Alvan Poup en Afrique du Sud. De petits brasseurs locaux se lancent dans l'aventure. Le marché de la bière est dominé par la South African Brewery, SAB, qui produit 4 bières sur 5 vendues dans le pays. Même si les bières sud-africaines ne jouissent pas encore d'une reconnaissance internationale, contrairement au vin, selon la société d'études Grandview Research, d'ici 2025, le marché mondial de la bière artisanale pèsera plus de 500 milliards de dollars, 6 fois plus qu'en 2015. Dans un rapport publié mercredi par Amnesty, la trentaine de multinationales qui s'approvisionnent en cobalt en République démocratique du Congo est mise en cause suite à des allégations de travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en cobalt. Dans un chapitre intitulé « La face sombre de la technologie verte », l'ONG attaque sévèrement le secteur automobile pour ses pratiques liées à leurs batteries. Elle se montre plus indulgente avec le secteur informatique et Apple, sa marque vedette, première capitalisation boursière mondiale. Au début de l'année, Apple est devenue la première entreprise à publier les noms de ses fournisseurs en cobalt, Microsoft faisant partie des 26 entreprises qui n'ont pas encore rendu publiques les informations sur leurs fournisseurs.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
L'Australie, avant-dernier qualifié pour le mondial russe l'été prochain.
L'Australie de Tim Cahill est donc devenue la 31e sélection à valider son billet pour le grand événement sportif planétaire. Le capitaine Miles Jedinak, auteur d'un doublé contre le Honduras, a permis à son équipe de pouvoir se qualifier pour le Mondial 2018. Une victoire 3-1 en match retour de barrage intercontinental. Après, on s'en souvient, le score nul et vierge à l'aller. À suivre la nuit prochaine, le barrage retour à Lima entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande. 0-0, c'était le score au match aller.
On connaît presque tous les chapeaux avant le tirage au sort du 1er décembre à Moscou.
Oui, les chapeaux du Mondial 2018 sont pratiquement complets. Les têtes de série devront surtout éviter l'Espagne dans le chapeau numéro 2. On rappelle que la répartition des sélections se fait sur la base du classement FIFA du mois d'octobre. La Russie, pays organisateur, est automatiquement dans le premier chapeau. Deux nations d'une même confédération ne pourront se retrouver dans le même groupe, hormis celles issues de l'Europe, à raison de 2 par groupe maximum. On rappelle la composition du chapeau numéro 1, Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne et France, c'est du lourd.
La CAF a dévoilé la composition des pots du tirage au sort du CHAN 2018 qui aura lieu vendredi à Rabat.
Le Maroc, pays organisateur, se trouve dans le chapeau numéro 1, tout comme l'Angola, la Côte d'Ivoire et la Libye. Dans le chapeau numéro 2, Cameroun, Guinée, Nigeria, Zambie. Dans le chapeau numéro 3, Congo, Ouganda, Rwanda et Soudan. Enfin, le chapeau numéro 4, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Mauritanie et Namibie. On rappelle que le CHAN se déroulera du 13 janvier au 4 février. À Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir.
Marc Wilmots n'est plus sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Oui, Marc Wilmots annonce qu'il quitte son poste de sélectionneur des éléphants sur Twitter. L'entraîneur belge n'a pas réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018. La dernière défaite, c'était à Abidjan samedi 2-0 contre le Maroc.
Enfin, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Boston a enlevé sa 13e victoire consécutive en venant à bout de Brooklyn, 109 à 102. Toronto est allé faire tomber Houston, 129 à 113. Enfin, le cauchemar se poursuit pour Dallas, battu chez lui par San Antonio, 91 à 97.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Nous revenons sur la situation au Zimbabwe. Robert Mugabe, mis en résidence surveillée, et l'armée affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Idriss Fall, vous couvrez cette région depuis longtemps. Comment en est-on arrivé là?
Bon, il faut dire que d'abord, c'est parti de la mise en garde sévère du chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, qui lundi, en fait, s'est levé pour dire il faut que la purge ça cesse. On venait de limoger la semaine d'avant Emmerson Mnangagwa, le vice-président, qui était aussi, rappelons-le, un ancien ministre de la Défense et aussi un ancien chef des services secrets zimbabwéens. Donc ça s'est accéléré et le général a décidé de passer aux actes cette nuit. Et M. Mugabe est en résidence surveillée, donc dans sa résidence privée à Harare. Et il faut dire qu'avant le limogeage de Mnangagwa, Joyce Mujuru, qui était l'ancienne vice-présidente, elle aussi, elle est passée à la trappe en 2014. Il faudrait pas l'oublier. Donc il y a eu comme une série de limogeages de successeurs potentiels au président Mugabe et son épouse Grace Mugabe, qui est son ancienne assistante, qui a 52 ans, a affirmé la semaine dernière à Bulawayo dans un meeting d'ailleurs, que en fait elle est prête à succéder à son mari. Donc c'est généralement une lutte pour le pouvoir avec un président qui a 93 ans et qui s'est accéléré en fait depuis cette nuit.
Pourtant, on disait que ce pays avait beaucoup de potentiel à son indépendance en 1980.
Absolument. En 1980, l'ancienne Rhodésie de M. Ian Smith devient un pays indépendant, nommé maintenant le Zimbabwe. Salisbury, l'ancienne capitale, devient Harare. Et c'est à la suite des accords dits de Lancaster House. Et M. Mugabe, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu beaucoup de sympathie parce que il a appelé à la réconciliation nationale. Il a permis à Ian Smith, un pays où un noir n'avait même pas le droit de marcher sur le même trottoir qu'un blanc, il a autorisé aux blancs de rester et même d'avoir un groupe parlementaire de blocage. Ça a rassuré beaucoup de gens. Le Zimbabwe était exportateur de produits agricoles à l'époque jusque vers les États-Unis. Le Zimbabwe avait l'un des systèmes sanitaires les plus développés du continent, au nombre de médecins par habitant. Mais 20 ans après son indépendance, M. Mugabe a décidé de faire l'expropriation des terres des Blancs. Mais n'oublions pas que les accords de Lancaster House, il y avait eu une promesse faite par la Grande-Bretagne d'aider Mugabe à financer en fait cette expropriation, ce qui n'a jamais eu lieu pendant 20 ans. D'où quand il a commencé ses expropriations et donné ça à d'anciens combattants qui n'ont jamais conduit un tracteur, la communauté internationale a tapé du poing sur la table. Il n'y a plus d'exportation agricole, le système sanitaire, tous les médecins ont fui vers l'Afrique du Sud et l'Australie. Et le résultat est là, l'économie est par terre.
Merci Idriss. La crise actuelle au Zimbabwe remet en lumière la crise économique que traverse le pays depuis 37 ans. 37 années marquées par une gouvernance économique désastreuse. Pour comprendre comment le Zimbabwe en est arrivé à une situation économique aussi déplorable, Dilidiko a joint Achille Membe, professeur de sciences politiques et d'histoire à Pretoria.
Cette situation est due à conjugaison d'une mauvaise gouvernance et de choix économiques hasardeux. Choix économiques hasardeux qui ont commencé au milieu des années 90, lorsque le Zimbabwe a été contraint de suivre les plans d'ajustement structurel décidés par la Banque mondiale et le FMI. À ce moment, M. Mugabe et ses acolytes ont décidé de jouer la surenchère politique en nationalisant les terres en particulier et en déstabilisant ce faisant la plupart des institutions financières et l'ensemble de l'économie en général qui, il faut le rappeler, dépendait de l'agriculture et dans une moindre mesure des matières premières. La suite, on la connaît.
Est-ce que vous pensez que l'erreur principale faite par M. Mugabe au niveau économique est d'avoir exproprié les terres aux fermiers blancs?
Disons que l'expropriation des terres n'a pas aidé à relancer l'économie. Monsieur Mugabe aurait dû, vraiment comme dans les autres pays, appliquer les politiques d'ajustement structurel qui étaient imposées à l'époque aux États africains et à diversifier son économie, quitte à en appeler à des partenaires extérieurs tels que la Chine et d'autres.
Alors le Zimbabwe a aussi beaucoup de ressources minières. Qu'est-ce qui explique que le pays n'arrive pas à s'en sortir avec toutes ces ressources-là, ces ressources naturelles?
Le pays a été très mal gouverné. Et cette mauvaise gouvernance explique en très grande partie la faiblesse de compétitivité de l'économie zimbabwéenne, ainsi que les dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont conduit au désastre actuel.
Selon vous, quelles sont les perspectives économiques du Zimbabwe? Le pays peut-il véritablement arriver à relever la pente économiquement?
Oui, le pays pourrait se relever assez rapidement.
Rapidement?
Assez rapidement. Si effectivement les nouveaux acteurs politiques mettent en place un système légitime soutenu par la plus grande majorité des Zimbabwéens et ainsi que par les partenaires extérieurs de ce pays, l'Afrique du Sud en particulier, les pays occidentaux également.
Et est-ce que justement la crise actuelle ne risque pas de ralentir davantage le développement du pays?
Non, tout dépend de la manière dont le cycle qui s'ouvre se poursuit. Il faudrait que le régime qui se met en place retourne très vite à la démocratie.
Achille Membe, professeur de sciences politiques et d'histoire à Pretoria.
Jacques Aristide avec vous, l'actualité oblige, Washington Forum change de thème et va être plutôt consacré ce jeudi à la situation au Zimbabwe. L'armée a pris le pouvoir à Harare mais dément tout coup d'état. Le président Robert Mugabe a toutefois été placé en résidence surveillée. Que sait-on de ce coup de force militaire? Comment le pays en est arrivé là? Quelle en sera l'issue? Est-ce la fin du long règne sans partage de Mugabe? Qui sont les principaux acteurs de la crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En Angola, le nouveau président, João Lourenço, a limogé Isabel dos Santos à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. La nomination l'an dernier de la fille de l'ancien président Eduardo dos Santos avait suscité la polémique dans ce pays riche en pétrole. Dos Santos a quitté la présidence après 38 ans de règne. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Luanda le journaliste Siona Casemiro.
Ce limogeage un peu surprenant en termes de timing était quand même prévisible après une série de signes donnés par le nouveau président de la République dans l'assaut des instruments décisifs de l'affirmation de son pouvoir. Sonangol représente un important atout économique d'où provient la plupart des ressources interrompues.
Comment est-ce que la fille de l'ancien président est perçue en Angola aujourd'hui?
L'image auprès de l'opinion publique est de très bas niveau. Donc, on imagine alors le degré de réjouissance plusieurs milieux, dans la mesure où elle est représentée dans une certaine mesure le népotisme qui était critiqué à l'ancien président de la République.
Quels sont aujourd'hui les rapports entre l'ancien président João Bernardo dos Santos et son successeur João Lourenço?
Bien entendu, ces limogeages l'illustrent suffisamment. Ils ne sont pas des rapports, sont pas des bons rapports. Ils sont malsains pour le moment.
Et qu'est-ce qui pourrait l'expliquer?
Parce que je crois que c'est un problème de l'affirmation de l'autorité du nouveau président. Et je crois qu'il est en train de passer par le besoin de cette affirmation, est en train de passer par la correction de ce que maintenant on entend mieux d'ailleurs le contenu de son slogan, corriger ce qui est mauvais et améliorer ce qui est bon. Donc clairement, c'était une allusion donc aux erreurs de son prédécesseur. Cet élément ne peut pas dire qu'ils ont des rapports très sains. Les rapports, au contraire, sont un peu crispés.
Est-ce que vous pensez que ces mesures prises par le président Lorenzo ont l'assentiment du MPLA, le parti au pouvoir ?
À ce niveau-là, je crois qu'on ne peut pas être trop catégorique. Je crois que si certaines bases doivent être favorables, je crois qu'il y aura aussi des reproches dans la mesure où l'ancien président et ses enfants ont aussi d'énormes sympathies, même au sein du parti. Le président Santos s'est retiré du poste du président de la République, mais est resté président du parti.
C'était le journaliste angolais Siona Casemiro. Il était joint à Luanda.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Sur le continent, il y a des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Au Nigeria, Onyeye Anebwe, connue sous le nom de Madame Sese, est propriétaire de l'entreprise Sese Chibuke, qui initie les jeunes à la fabrication de portes métalliques, de grilles et des fenêtres. Madame Sese a choisi de devenir soudeuse et s'en sort bien depuis 13 ans. Reportage du service Haoussa de la Voix de l'Amérique, rendu par Solange Niamoulissa.
Au Nigeria, parmi les compagnies des ferrailleurs, on peut trouver des femmes qui travaillent aussi dur que les hommes. L'entreprise Sese Chibuke est dirigée par une femme qui emploie et forme les jeunes dans la fabrication des portes métalliques, grilles et des fenêtres. Cela fait 13 ans que Mme Sese exerce ce métier de ferrailleur.
J'ai épousé un homme qui fait le même métier. Après avoir obtenu ma licence à l'université, j'avais du mal à trouver de l'emploi avec un salaire décent. Alors j'ai commencé par aider mon mari avant de lancer ma propre entreprise.
Étant donné que ce métier est généralement réservé aux hommes, Madame Sese fait face à beaucoup de défis.
Il y a plusieurs facteurs. Je suis la seule femme dans ce domaine. Les hommes essaient parfois de me décourager. Ils essaient aussi de me voler mes clients, mais Dieu est de mon côté. Je ne peux pas me plaindre.
Chaque fois qu'il y a un client, elle leur présente les différents produits disponibles et les laisse faire leur choix. Elle a sollicité l'assistance du gouvernement pour pouvoir agrandir son entreprise.
Si nous décrochons une subvention du gouvernement, nous allons agrandir l'entreprise et nous allons créer plus d'emplois. Cela va aider plusieurs personnes à ne pas se livrer à de mauvaises activités. Nous allons les nourrir, leur offrir un salaire mensuel et l'occasion d'apprendre un métier.
Le plus grand rêve de Madame Sese est de renforcer la capacité des jeunes par la formation.
La plupart d'entre eux sont désœuvrés, alors nous les invitons et nous leur offrons un emploi. Au terme de la formation, nous pouvons les garder comme employés s'ils le souhaitent. Sinon, ils vont ailleurs ou commencent leur propre entreprise. La pauvreté sera réduite et les jeunes ne seront pas livrés à des comportements malsains. Notre objectif est d'apprendre aux jeunes ce métier pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook. Restez avec nous. Tout de suite, le RM Show, présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.